Europe 1.
Trouver du carburant est devenu une épreuve de patience. 15% environ des stations-service sont à sec. La grève des raffineurs, qui réclament une hausse de salaire, empêche l'approvisionnement des pompes depuis 10 jours. Bonjour Nina Droff.
Bonjour.
Vous êtes en direct pour Europe 1 depuis une station Total dans les Hauts-de-Seine. De nombreux automobilistes font la queue pour espérer avoir quelques litres d'essence dans une ambiance, vous nous dites, qui n'est pas toujours sereine.
Non, ça klaxonne, les automobilistes commencent à s'impatienter ici dans cette très longue file d'attente qui bloque totalement la rue. La police municipale est même venue pour superviser la circulation. Certains conducteurs cherchent depuis plusieurs heures à faire le plein. Daniel, chauffeur de taxi, a fait le tour de Paris avant d'arriver ici.
Avant, je suis parti près de la porte de Versailles, donc il y avait une pénurie. Ce matin aussi, j'ai fait la queue au total de porte d'Aubervilliers. Et pareil, pendant une demi-heure, j'ai attendu, mais il y avait une pénurie.
Dans la file, beaucoup de camionnettes utilitaires et de véhicules professionnels, mais aussi des particuliers qui espéraient partir en week-end en voiture, comme Yannick.
C'est très compliqué. Là, je voulais aller en week-end, mais là, je me retrouve à sec. Donc, j'ai dû me réveiller hier soir à minuit, mais je n'ai pas trouvé. Dans tout le quartier, j'ai fait 4-5 stations, il n'y a rien. Donc là, c'est reparti pour aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop durer.
Jacques, lui, a enfin réussi à atteindre la pompe après 40 minutes d'attente, mais il a quand même le sentiment de perdre au change.
Je suis étonné parce qu'il y a quelques jours, là, j'ai voyé le prix, c'était à 1,7. Mais là, aujourd'hui, c'est 2,25, ce que je vois là. On n'a pas le choix. On est obligé parce qu'on fera comment. Vous voyez, c'est compliqué.
Il est également reparti avec un jerrycan plein d'essence pour ne pas avoir justement à refaire la queue.
Nina Droff, porte d'Aubervilliers à Paris pour Europe 1. Merci beaucoup Nina, on l'entend, les automobilistes sont agacés. La galère se poursuit donc, notamment dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, mais aussi dans les Hauts-de-France. Les difficultés d'approvisionnement sont dues à un mouvement de grève de la CGT dans les dépôts pétroliers, dans les raffineries. Principale revendication, une hausse des salaires et plus d'investissements sur le site. Bonjour Maximilien Carlier.
Bonjour Romain.
Vous êtes justement à Dunkerque, devant l'établissement des Flandres, bloqué par les salariés de Total, l'un des dépôts pétroliers les plus importants de France.
Oui, tout à fait. Devant moi, il y a ces énormes cuves remplies de carburant. Ce dépôt pétrolier représente près de la moitié des stocks de la région Hauts-de-France, sauf que rien ne sort d'ici. Tout est bloqué. Aucun camion, alors qu'habituellement il y en a 130, qui viennent chaque jour pour alimenter les stations essence. Ce blocage dure depuis plus de 10 jours maintenant. Benjamin Tange, délégué syndical CGT du raffinage pétrochimie en France.
On n'est pas là pour emmerder les gens, on n'est pas aveugle, on a aussi nos familles, etc. qui sont nous-mêmes, des fois on est confrontés à cette situation-là, parce qu'il ne faut pas croire qu'on a à disposition le carburant qui est sur le site. Mais pour nous, l'unique responsable dans cette affaire-là, c'est la direction de Total Énergie. S'ils ouvrent les négociations, en moins de 12 heures, en moins de 8 heures, la situation est rétablie.
Revaloriser les salaires et plus d'investissements sur le site, c'est ce que réclament ces salariés. Grévistes. La direction nous disait que ce dépôt ne servait à rien, insiste ce représentant syndical. On se rend compte finalement qu'il est indispensable.
Et c'est dans ce contexte, merci Maximilien, c'est dans ce contexte, au lendemain de l'annonce du plan sobriété énergétique par le gouvernement, que le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, s'est rendu en gare de Paris-Montparnasse pour échanger sur les pratiques de sobriété et pour soulager les longues files d'attente devant les stations-service. Clément Beaune, ministre délégué donc aux transports, annonce, écoutez, l'autorisation des camions-citernes à rouler le week-end, à rouler en tout cas, ce week-end, il veut que les camions-citernes aient l'autorisation de rouler ce week-end. Écoutez-le.
J'ai indiqué que le ministère des Transports donnait aussi l'autorisation aux camions-citernes de circuler ce dimanche pour que, là où il y a des réouvertures et pour faciliter, quand ça peut faciliter les choses, l'approvisionnement des stations-service. Donc on fait tous ces gestes qui peuvent faciliter les choses. On est très mobilisés. Mais c'est très important aussi qu'on n'alimente pas en effet un effet de panique parce que, on voit bien, on l'a vu, je l'ai vu même ce matin, il y a la queue aux stations-service, c'est important, ça inquiète, mais c'est pas une indisponibilité ou une pénurie du carburant, c'est un problème temporaire de gestion du carburant sur le territoire. Donc ceux qui peuvent attendre un tout petit peu, ne vous ruez pas sur les stations-service parce que ça accroîtra le problème.
Voilà, Clément Beaune, ministre des Transports, interrogé par Thibaut Hu pour Europe 1. Et dans un instant, on sera avec un responsable de la profession de routier. On sera avec Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE. Hein, c'est l'Organisation des Transports, des Transporteurs Routiers Européens. Il nous dressera un tableau de la situation à midi aujourd'hui. Autre sujet d'actualité, un prix Nobel de la paix en forme de critique de Vladimir Poutine. Le prix Nobel de la paix a récompensé aujourd'hui à Oslo deux ONG ainsi qu'un opposant biélorusse. Alexandra Gégy avec nous. Bonjour Alexandra.
Bonjour Romain. Oui, car il revient au militant biélorusse Ales Beliatsky, à l'ONG russe Mémorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles, un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est et en Russie, et une récompense évidente pour la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.
Ils ont promu pendant de nombreuses années le droit de critiquer le pouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Ils ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et les abus de pouvoir. Ensemble, ils démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie.
Dans son discours, la présidente est également revenue sur les combats menés par Ales Beliatsky, le militant actuellement emprisonné et connu pour avoir dirigé la principale ONG de défense des droits de l'homme de Biélorussie. Mais en 2011, il a été arrêté pour de soi-disant fraudes fiscales dans un contexte de répression dans le pays. Le comité Nobel appelle d'ailleurs la Biélorussie à le libérer et espère que ce prix Nobel de la paix pourra lui être remis en main propre. Le comité qui affirme aussi que le prix n'est pas dirigé contre Poutine, mais qu'il appelle à cesser de réprimer les militants.
Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Gégy sur ce prix Nobel de la paix, donc collectif, hein, donné à deux entités, deux ONG et à un militant. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. Merci beaucoup Alexandra. La guerre en Ukraine peut-elle mener à l'apocalypse nucléaire? Ce sont les mots employés par le président américain Joe Biden. Mise en garde adressée à Vladimir Poutine, qui n'est pas sans rappeler la crise, évidemment, des missiles cubains. En 1962, l'URSS avait déployé des missiles à tête nucléaire et entraîner la réaction immédiate de Washington. Le monde n'avait alors jamais été aussi proche d'un conflit atomique. Bonjour Nicolas Toneff. Nicolas Toneff qui est avec nous. Qu'est-ce qui pourrait pousser Vladimir Poutine à utiliser l'arme nucléaire en Ukraine ?
Eh bien, c'est l'incapacité des armées russes à gagner par les moyens conventionnels. Les pertes territoriales se multiplient dans l'Est et dans le Sud. Les pertes matérielles sont gigantesques. Plus de 1200 chars d'assaut détruits et surtout plus de 400 chars abandonnés en état de fonctionnement aux Ukrainiens qui se retrouvent ainsi mieux équipés qu'avant le début de la guerre. Et puis, autre problème, des vidéos tournées par les recrues russes elles-mêmes le montrent. Elles ne sont ni armées ni nourries. Autant dire qu'elles ne peuvent répondre à l'exigence d'une victoire obligatoire sans une aide extraordinaire au sens propre du terme.
Et Nicolas, il y a aussi la problématique de l'incapacité des états-majors russes à gérer la situation. Hein.
Oui, Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense, est mis en cause pour son incompétence. Le chef d'état-major, le général Gerasimov, est lui aussi critiqué, ainsi que le général commandant les opérations dans la région de Donetsk, considéré comme un incompétent notoire. La perte de confiance est totale, du haut en bas de la hiérarchie militaire, en transversale aussi entre les armées et les représentants des clans extrêmes, très puissants comme ceux du Tchétchène Ramzan Kadyrov et de Prigojine, le patron du groupe Wagner. Deux personnages capables de peser sur la situation avec leurs propres moyens. Vladimir Poutine doublerait lui aussi l'armée en commandant des opérations via des officiers de confiance. Et c'est cet éclatement des commandements qui est propice aux situations dangereuses et aux décisions extrêmes, surtout si les Ukrainiens continuent à progresser sur le terrain.
Nicolas Toneff, merci beaucoup Nicolas. Et à l'instant, l'Union européenne salue le courage extraordinaire des lauréats du prix Nobel de la paix, voilà, dont on parlait à l'instant. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. On va parler dans un instant d'Octobre Rose avec un dépistage personnalisé du cancer du sein. Vous allez voir, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Octobre rose, tous les ans, c'est le mois de prévention pour le cancer du sein. L'occasion d'en parler Zoom aujourd'hui sur l'étude « Mon dépistage personnalisé du cancer du sein ». Bonjour Yasmina Katou.
Bonjour à tous.
Spécialiste santé d'Europe 1, bien sûr. Certaines femmes ont découvert grâce à cette étude qu'elles étaient à risque élevé de développer un cancer du sein.
Oui, comme Sandrine, 53 ans, aucun antécédent familial du cancer du sein. Pourtant, son profil et ses résultats d'examen génétique montrent qu'elle est à risque élevé de développer une tumeur.
Quand on n'allaite pas assez, c'est un facteur de risque. On peut avoir des petits seins de visu avec une grosse glande mammaire qui est un facteur de risque. Après, il y a eu un brin d'ADN qui a été identifié comme étant à risque. Aujourd'hui, le fait d'être en surveillance tous les ans, effectivement, ça me rassure.
Alors comme elle, en France, près de 9000 femmes de 40 à 70 ans participent à l'étude MyPeps. Les résultats ne sont pas encore connus, mais ils s'annoncent prometteurs. Corinne Baliguier est chef du service d'imagerie à Gustave Roussy et coordinatrice de l'étude.
On a pu identifier des femmes qui sont dans la catégorie risque un peu élevé, sont dans la tranche 40-50, qui n'auraient pas dû avoir de mammographie du tout. L'idée, c'est de diminuer les cancers du sein de stade 2 et plus. Et on sait que plus la tumeur sera petite, meilleur est le pronostic.
Grâce à ce projet, un cancer a été décelé chez une femme de 48 ans la semaine dernière. Avec le système actuel, elle aurait dû attendre 2 ans avant de faire sa toute première mammographie.
Merci Yasmina Katou. Comme chaque semaine, c'est vendredi thématique sur Europe 1. Aujourd'hui, on se penche sur une passion bien française, l'Égypte ancienne. Elle nous passionne quasiment tous, même les plus jeunes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui leur plaît le plus dans les manuels d'histoire et au musée aux jeunes. Et comme à Lyon, à l'exposition Tout en Camon, à la découverte du pharaon oublié, qui est une exposition qui a débuté la semaine dernière à Lyon. Notre correspondant Jean-Luc Boujon à Lyon a suivi une classe de 6e du collège Émile Zola de Belleville-sur-Saône. On peut le dire, les hiéroglyphes, les pyramides et les momies, ça leur parle. Hein.
Pour moi, c'est un monde magique.
Les yeux grands ouverts, Agathe, 11 ans, n'en perd pas une miette. L'adolescente est fascinée par les représentations de Toutankhamon.
Je suis passionnée par l'Égypte. Toutankhamon, c'est des pharaons dont on a perdu les traces. J'aime beaucoup le suspense quand on va découvrir la tombe. C'est surprenant aussi la quantité d'or, les bijoux, les merveilles. J'adore.
L'exposition interactive et à base de reproduction d'objets retrace la découverte du tombeau par l'archéologue Howard Carter en 1922. Les élèves de 6e sont conquis.
À sa mort, Toutankhamon a environ 17 ans.
Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici?
Une tombe.
Un sarcophage.
D'après vous, il y avait quoi dedans?
La momie de Toutankhamon.
La momie. C'est ça, parce qu'il les momifiait.
Pour Marine Bournier, responsable de l'exposition, l'Égypte parle aux plus jeunes.
C'est vrai que c'est beau et c'est surtout mystérieux aussi, notamment les pyramides, ces sarcophages, ces tombeaux cachés dans la montagne. Donc ça attire beaucoup l'attention des jeunes.
Et voici la preuve que Toutankhamon est bien entré dans le monde des adolescents.
Je vais prendre un selfie avec le masque de Toutankhamon avec ça.
Ouais.
C'est la classe. Montre-moi.
Ouais,
elle est un peu floue.
La photo était floue, c'est vrai, mais l'exposition leur a beaucoup plu. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà, et notez que l'exposition Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié, c'est jusqu'au 24 avril 2023 à la Sucrière à Lyon. Et puis on va continuer à parler de cette passion française pour l'Égypte ancienne. On sera avec Florence Maruéjol, qui est docteur en égyptologie, enseignante à l'Institut Khéops à Paris et auteur du best-seller « L'Égypte ancienne pour les nuls ». Oui, c'est elle qui l'a écrit. Elle sera avec nous à 12h45 dans Europe Midi. C'est une information qui commence à circuler en Italie depuis ce matin. Franck Ribéry devrait prendre sa retraite, c'est ce qu'annonce la presse italienne. À 39 ans, le milieu de terrain miné par les blessures dit stop après 18 ans d'une riche carrière. Virginie Fulpin, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est confirmé ou pas?
Pas encore, mais ça va être fait dans les heures qui viennent. Franck Ribéry, vous savez, c'est un peu le tout-en-un du foot français. Un talent hors norme et des controverses à foison. Le Stigat Boulogne-sur-Mer a éclaté à Metz, puis à l'Olympique de Marseille, avant d'aller chercher ses galons de Kaiser au Bayern Munich. C'est là qu'il a gagné la Ligue des Champions en 2013. Là aussi qu'il aurait dû remporter le Ballon d'Or la même année. Franck Ribéry s'était plaint à ce moment-là du manque de soutien en France. Autant les Allemands l'ont tout de suite respecté. Ici, ce sont plutôt les moqueries qui l'ont accompagné. Tout avait pourtant bien commencé, adoubé par Zidane. Franck Ribéry avait fait souffler un vent de fraîcheur chez les Bleus. C'était à la Coupe du Monde 2006. Des buts, des sourires, des courses folles, des facéties. Et puis la machine s'est grippée, la roue tourne à tourner. 2010, c'est la Coupe du Monde de la honte en Afrique du Sud est passée par là. Les joueurs refusent de descendre de leur bus et Franck Ribéry débarque dans Téléfoot en claquettes chaussettes, porte-parole maladroit d'une équipe à la dérive.
Ça a explosé, bien sûr que ça a explosé. Comme je dis, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir et il n'y a pas que nous. C'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. On est en train de rentrer dans un truc que tout le monde est en train de se foutre de nous. C'est-à-dire dans le monde. Ah ouais, j'ai les boules.
Aujourd'hui, le Stigas en va plus discrètement. Franck Ribéry a parfois dérapé, beaucoup rigolé et presque tout gagné. Une histoire du foot français.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. Est-ce qu'il va vous manquer, tiens, Franck Ribéry? On va en parler, j'imagine, dans Europe 1 Sport ce soir.
Bien
évidemment,
entendu,
on va parler.
C'est de grands souvenirs, enfin de grands et de petits souvenirs, Franck Ribéry.
De bons et de mauvais souvenirs,
exactement.
Voilà.
Exactement.
Hein, va-t-il vous manquer, tiens, Europe 1 Sport, tous les soirs, du lundi au dimanche, de 20h à 23h. J'aime bien quand c'est simple, 20h, 23h, tous les soirs, on parle de sport sur Europe 1. Merci beaucoup Virginie. Didier Hameau de Boursier.com, bonjour.
Bonjour
Didier.
Bonjour Romain.
La bourse, qu'est-ce que ça donne à Paris aujourd'hui ?
C'est très très calme. En Bourse de Paris, on a une petite hausse de 0,2%, 5 945 points. C'est calme tout simplement parce que les marchés attendent les chiffres de l'emploi aux États-Unis cet après-midi qui vont en partie déterminer le rythme de remontée des taux directeurs de la Banque centrale américaine. 250 000 créations de postes sont attendues en septembre. Pour patienter, il y a quand même quelques hausses dans le secteur automobile en particulier. Renault, plus 3,8%, Faurecia, plus 2%, Valeo remonte à 16 euros. Ailleurs, c'est très calme aussi. Hein. La bourse de Francfort est stable, Bruxelles, moins 0,2%, Madrid, moins 0,3%, et le CAC 40 en hausse de 0,2%, 5 945 points.
Didier Hameau de Boursier.com, merci beaucoup Didier.
C'était La Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Le temps, la météo avec vous Anissa Haddadi, avec quelques passages nuageux cet après-midi.
Oui, c'est entre le centre-est et le nord-est que les nuages seront les plus présents, avec quelques brouillards matinaux qui s'accrochent et qui auront du mal à se dissiper sur la vallée de Saône ou encore la Sologne. Mais partout ailleurs, c'est vrai que le soleil se montre bien présent avec des éclaircies, un voile nuageux le long des côtes de la Manche avec du vent jusqu'à 60 km/h sur le littoral. C'est dans le sud-est, entre les Alpes et la Côte d'Azur, que le soleil sera le plus généreux. En Corse, le soleil brille dans un ciel quasiment sans nuages. C'est un petit peu plus couvert sur le Languedoc-Roussillon et puis sur les Pyrénées. Les nuages viendront donner quelques petites averses avec un ou deux coups de tonnerre. Les températures, elles sont stationnaires par rapport à hier. On a quasiment les mêmes températures avec 18 degrés prévus à Brest, 20 à Paris et Rennes, 22 pour Nice et Montpellier, 23 à Clermont-Ferrand et Limoges et jusqu'à 27 degrés à Mont-de-Marsan.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Il est midi 20, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on parle de la situation dans les stations-service. On sera avec un transporteur routier, un représentant de la profession. A tout de suite.